Ça commence par moi.
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 Ça commence par nous.
Et bonjour, bienvenue dans Ça commence par nous sur Rage. Dans Ça commence par nous, nous faisons notre maximum pour vous donner le plus de solutions concrètes et accessibles pour mettre plus de verre dans votre vie. D'ailleurs, la recyclerie, c'est vraiment l'endroit parfait pour parler du sujet qui va nous occuper pendant une heure, puisque oui, nous sommes sortis de notre studio d'enregistrement pour poser nos micros à la recyclerie, la recyclerie qui est ce fameux tiers-lieu inspirant situé dans le nord de Paris. Et je tenais d'ailleurs à remercier toute l'équipe pour l'accueil. De quoi on va vous parler pendant cette heure ? On va vous parler de l'agriculture de demain. Dans ce domaine, il y a un paquet de boulot au regard de la situation désastreuse dans laquelle nous sommes, puisque les dernières études nous disent ni plus ni moins que 60% des sols de la planète sont moyennement à fortement dégradés et qu'il y a urgence à inverser la tendance. Or, dans une France où 90% de l'agriculture reste conventionnelle, on voit mal par où commencer. Permaculture, agriculture urbaine, compost, on va évoquer avec nos invités plein d'initiatives qui proposent justement de faire bouger les choses dans le bon sens. Dans l'heure qui vient, nous recevrons Marion Enzer de Ferme d'Anières, Olivier Fontenat de la ferme urbaine située à la recyclerie et Alexandre Guilly des alchimistes. Sur le plateau avec moi, il y a Hélène Dédény qui nous parlera de Zero Waste et Mélanie de One Art qui nous partagera tout à l'heure son bon plan. Allez, c'est parti pour une heure d'émission de Ça commence par nous.
Ça commence par moi.
Ça commence par moi.
Ça commence par moi.
Ça commence par nous.
Et aujourd'hui, comme je vous le disais, on va creuser le sujet de l'agriculture de demain et on accueille tout de suite Marion Enzer de Ferme d'Anières. Bonjour Marion.
Bonjour Julien.
En introduction, je disais que les experts tirent de plus en plus la sonnette d'alarme en ce qui concerne l'agriculture. Ils ne savent même plus quoi tirer d'ailleurs, puisqu'on est passé de quelques centaines d'experts qui justement ont été paniqués. Puis maintenant, là, c'était récemment 15 000 experts sur l'environnement de manière assez globale. Est-ce que en ce qui concerne l'agriculture, c'est vraiment aussi terrible que ça ?
J'ai pas envie de sonner trop alarmiste, mais oui, Ferme d'Avenir, nous, on s'est lancé sur un constat, le constat que l'agriculture chimique ou industrielle a des externalités négatives à plusieurs niveaux. Le premier niveau, ça peut être le coût humain. On a un agriculteur qui se suicide en France tous les deux jours parce qu'il n'arrive pas à vivre de son activité. Hélène de La Ruche qui dit oui tout à l'heure mentionnait qu'il y avait un agriculteur sur trois qui gagnait moins de 300 euros par mois. Donc il y a un coût humain vraiment très
terrible,
fort,
terrible.
Il y a un coût environnemental que tout le monde connaît. Il y a 50% des animaux de la planète qui ont disparu ces 40 dernières années. Encore récemment, Le Monde a titré un article qui sortait aussi d'une étude qui disait qu'il y avait 80% des insectes en Europe qui avaient disparu, principalement dû à nos pratiques agricoles, aux pesticides.
J'allais te dire, mais c'est peut-être juste à cause, c'est juste à cause du réchauffement climatique,
Oui, aussi. Alors il y a pas, mais le réchauffement climatique, une des causes, c'est aussi l'agriculture. Donc bon, en fait, tout est lié. On revient un petit peu comme dans le film Home de Yann Arthus-Bertrand où il insiste beaucoup. Il dit plusieurs fois, tout est lié. Bah oui, tout est lié.
Et ces sols qui sont morts, qu'est-ce que ça veut dire ?
Alors, principalement que les sols sont de moins en moins fertiles. Alors, ça peut être de différentes causes. Les sols sont... Il y a une baisse du carbone et de la matière organique dans les sols. Il y a beaucoup plus d'érosion. Il y a le travail du sol qui va faire tasser les sols, donc qui vont permettre de moins absorber l'eau.
Enfin, c'est ce que je disais il n'y a pas longtemps. Apparemment, là, ces dernières années à Paris, on a eu énormément d'inondations.
Exactement.
Mais c'est parce que les sols sont devenus du véritable goudron.
Exactement.
Ils ne sont plus capables d'absorber à peine quelques centimètres d'eau et encore, c'est ça.
Si vous prenez par exemple un bout d'argile, vous voyez bien que l'eau ne passe pas.
Ouais.
Donc il faut essayer de remettre de la vie des sols. Notamment, je prends l'exemple des vers de terre qui... quand ils vont creuser des galeries et avoir un sol vivant très riche en faune microbienne et en vers de terre, par exemple, ils vont creuser des petites galeries qui vont permettre à l'eau de mieux s'infiltrer. C'est un exemple bateau qui parle à tout le monde, mais il y a une vie dans le sol qui est très, très importante. Et si on perd cette biodiversité par des pratiques comme le labour ou par des pesticides, évidemment, les sols deviennent moins fertiles et du coup, voilà, mort.
Les vers de terre, on rigole tous avec les vers de terre quand on est enfant, en les coupant en deux pour voir ce qui se passe. Si on devait prendre toute la masse de toutes les espèces vivantes sur Terre, et ils représenteraient plus de la moitié de cette masse, hein, si je ne dis pas de bêtises. Donc ils ont un rôle essentiel dans Exactement. Tout l'écosystème. Hein.
Exactement.
Et vous, donc, du coup, en partant de ce constat, vous vous êtes dit, bon, allez, c'est parti, on se lance dans la bagarre, et vous avez créé Ferme d'Avenir.
Exactement. Alors au départ, c'est Maxime de Rostolan qui travaillait aux éditions des Rolls avec Louis-Albert de Breuil. Et tous les deux, ils ont décidé de lancer une ferme expérimentale en Touraine, sur le château de la Bourdésière, dans une prairie au bout du château, sur lesquelles ils garaient des voitures qui étaient utilisées une ou deux fois par an, qui fait un peu moins de 2 hectares, 1,4 hectares. Et ils ont décidé de faire une ferme expérimentale inspirée de la permaculture pour démontrer sur le terrain que l'agroécologie pouvait être tout aussi rentable que l'agriculture chimique. Et donc là, on en est dans la quatrième année d'exploitation. Et du coup, ça va bien. On n'a pas exactement atteint nos objectifs, mais on a des pratiques. On a notamment enrichi beaucoup la matière organique du sol. Enfin, on démontre vraiment sur le terrain que l'alternative est vraiment crédible, que c'est possible. Et en parallèle, les activités de Ferme d'Avenir se sont beaucoup développées autour de ce projet, à tel point que maintenant, on est organisé autour de 4 pôles d'activité. Donc on fait toujours de la production, puisque c'était le cœur du projet initial. Donc en plus de la ferme de la Bourdésière, on est en train de lancer le même type de ferme, mais à beaucoup plus grande échelle, de 70 hectares sur Cœur d'Essonne, dans le sud de Paris. On a aussi des activités de conseil. On va avoir des collectivités locales ou des entreprises qui vont nous demander de les aider à lancer des fermes en permaculture ou en agroécologie. Donc ça, c'est vraiment les activités du pôle production. Comme son nom l'indique, le but, c'est de produire. On fait aussi de la formation. Donc ça peut être de la formation courte, du jardinier du dimanche qui veut apprendre à faire du compost ou à mettre en place de meilleures pratiques dans son jardin, jusqu'à de la reconversion professionnelle avec des formations longues de personnes qui veulent changer de vie et lancer une micro-ferme, voire même devenir pays-culteur. On pourra peut-être en parler un peu plus tard. La troisième activité qu'on fait, c'est du financement. On part du principe aussi que le nerf de la guerre, c'est l'argent. Donc pour faciliter la transition, il faut financer des projets.
Le fameux Bluebees.
Exactement, le fameux Bluebees, qui est une plateforme de financement participative. Donc ça, c'est un mot barbare, mais pour les gens qui ne connaissent pas, c'est comme KissKissBankBank ou Ulule, mais principalement pour des projets d'agriculture durable et d'agroécologie, et même voire d'alimentation. Donc on peut avoir des jus de fruits bio qui peuvent financer leur activité sur Bluebees. Et on fait du prêt et du don. Donc c'est intéressant parce que tout le monde n'a pas forcément 100 euros tous les mois à donner à un projet. Donc on peut aussi juste donner et gagner même un petit bénéfice sur ces projets-là.
Donc tous ces piliers sont tournés vers cette fameuse agriculture de demain. Je comprends que tout est monitoré pour montrer, pour le prouver par des faits très scientifiques que ça marche. Et ça, on le voit très bien dans ce film qui est sorti il y a quelques semaines, c'est
Exactement.
Ça.
En fait, ce film fait partie du quatrième pôle dont j'ai pas encore parlé, qui est le pôle influence, dans lequel on essaye de sensibiliser les citoyens et les politiques à ces sujets-là. Et l'un de nos outils, c'est effectivement un film qui a été réalisé par Hélène Médigue et qui est en ce moment au cinéma. Hélène qui a rencontré Maxime, je crois que d'ailleurs qu'elle a entendu parler de Maxime via un article du Monde il y a un an et demi, 2 ans, et qui a eu un coup de cœur pour nos activités, qui a décidé de faire un film sur la transition agricole et qui a suivi Ferme d'Avenir pendant un an et demi et qui a fait un superbe film avec des images vraiment très belles de différentes fermes agroécologiques et une histoire autour de 4 personnages. Dont des gens effectivement de Ferme d'Avenir. Je laisse un petit peu la surprise pour pas spoiler trop le film.
Mais je l'ai vu, il est vraiment génial. On est très fort parce que ça fait une minute qu'on en parle et on n'a pas encore donné le titre.
Oui.
Donc le suspense est à son comble. Vas-y, je te laisse.
Exactement. Donc le film, c'est On a 20 ans pour changer le monde. Et beaucoup de gens évidemment nous disent pourquoi 20 ans, pourquoi pas 30, pourquoi pas 10. Alors 20 ans, il y a à la fois les prévisions du GIEC de Jean Jouzel sur le changement climatique qui sont en général à 2100, mais bon, c'est un peu tard. C'est-à-dire que si on dit aux gens il faut changer vos pratiques parce que dans 2100, en général, ils se disent bon, de toute façon, je serai déjà mort, malheureusement. C'est trop loin. Après, il y a aussi des prévisions qui sont beaucoup plus alarmistes, qui parlent d'effondrement dès 2020-2025. Donc ça nous paraissait un petit peu trop triste. Et puis 2020, c'est aussi un ordre de grandeur qui reste, qui permet une action, c'est-à-dire que beaucoup de choses peuvent changer en 20 ans. Il y a 20 ans, il n'y avait pas de smartphone, il n'y avait pas Google. Enfin, c'est vraiment possible de changer les choses en 20 ans. Et en même temps, c'est aussi une génération, 20 ans.
Ouais,
donc c'est symbolique.
En 20 ans, on a réussi à créer Facebook et Google. Ben voilà, bravo. On a un beau challenge devant nous pour ces 20 prochaines années. concrètement, là, tu as donné quand même pas mal de solutions pour le citoyen qui veut s'impliquer, pour les personnes qui, elles, veulent en savoir un peu plus sur Ferme d'Avenir. Est-ce que vous avez des projets, des choses qui se passent là dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, qui peuvent être intéressantes pour les gens qui veulent encore en savoir plus sur ces sujets-là?
Bah alors, la première chose, ce serait d'aller voir le film. C'est vraiment le meilleur moyen pour se sensibiliser à ces sujets-là, passer un bon moment de cinéma, parce que c'est plus qu'un documentaire, c'est vraiment un film. Il y a une très belle musique qui a été faite par Christian Olivier des Têtes Raides, c'est de très belles images.
Ouais, donc plus, allez... Maxime de Rostolan, c'est un sacré personnage.
Hein. Exactement, ouais. C'est drôle aussi, on rigole beaucoup. Donc allez, première chose, allez voir le film. En parallèle, on est en train d'organiser une tournée française de Jean-Martin Fortier, qui est un permaculteur et maraîcher québécois assez connu, qui est un peu le Maxime de Rostolan au Québec, et qui organise une grande tournée en France à notre initiative, et qui s'arrêtera à Paris le 2 juin pour faire une grande conférence aux grands voisins.
Mais dans d'autres endroits de France
et
aussi.
Et dans d'autres endroits. Donc il va s'arrêter à Marseille, à Bordeaux pour des conférences, et à Tours, dans notre ferme, il vient pendant une journée pour faire une formation à ses techniques de maraîchage. Donc si vous êtes maraîcher, agriculteur ou même jardinier, et que vous avez envie de passer une journée entière avec Jean-Martin Fortier pour apprendre ces techniques, n'hésitez pas à aller sur notre site, tout est expliqué.
Et bah génial, on parle de l'agriculture de demain, mais j'ai l'impression que les solutions, elles sont déjà là, elles sont ici, autour de cette table, et je suis très content de commencer avec cette présentation. Merci Marion de nous avoir parlé de Ferme d'Avenir. Nous, on te retrouve bien évidemment tout à l'heure, après la fin de l'émission, en fin d'émission pour le débrief. Pour en savoir plus, je crois pas qu'on l'ait donné, Ferme d'Avenir a un site internet, c'est fermedavenir.org, attention, il y a un S à ferme, et nous, on vous donnera bien évidemment toutes les informations sur le groupe Facebook de Ça commence par nous, notamment la tournée de ce fameux Maxime de Rostolan québécois. Allez, tout de suite, on se fait une première pause musicale. We'll be right back.
Ça commence par moi.
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 Ça commence par moi. Ça commence par nous.
Et de retour dans l'émission Ça commence par nous. Ici, on change le monde tous les jours un petit peu plus. C'est simple, positif et concret. C'est tous les samedis de 13h à 14h sur Rage. Aujourd'hui, on est en direct de la recyclerie. On vous parle d'agriculture de demain.
Ça commence par moi.
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 Ça commence par moi. Ça commence par nous.
Et comme je vous le disais, on est toujours dans l'émission Ça commence par nous en direct de la recyclerie. On continue à parler d'agriculture de demain et on accueille tout de suite Olivier Fontenat de la ferme urbaine de la recyclerie. Salut Olivier.
Salut.
Alors est-ce que tu peux nous présenter, on commence à bien connaître la recyclerie, mais est-ce que tu peux plus spécifiquement nous présenter tout le travail que vous faites dans la ferme urbaine, s'il te plaît?
Ok, alors la ferme urbaine de la recyclerie, c'est sur les quais de la recyclerie, donc tout au fond. Les gens n'ont pas toujours tendance à aller jusqu'au fond des quais. Ils connaissent effectivement, comme tu dis, bien toute la partie de l'ancienne gare, restauration, atelier René. Et tout au fond, il y a un petit potager avec une grande serre également. Et l'idée de ce potager, c'est de faire de l'expérimental, du pédagogique et du lien social et aussi un peu de production. Donc tous les légumes qui sont produits dans cette ferme urbaine sont ensuite utilisés au restaurant pour la cuisine.
Est-ce que tu peux nous donner quelques exemples? Qu'est-ce que vous produisez exactement? Légumes, j'imagine qu'il y a aussi des aromates, plein de choses, non?
C'est ça. Alors comme on n'a pas une très grande surface, on n'a pas une très bonne exposition... voilà, on est la petite ceinture pour s'imaginer, donc on est sur la petite ceinture, hein. Pour s'imaginer, c'est un lieu assez ancré en profondeur, donc il n'y a pas beaucoup de luminosité. Et au niveau de l'espace, c'est pareil, donc on est plutôt sur des fleurs comestibles, parce que les fleurs comestibles, c'est des produits qui sont assez chers sur le marché, qui se conservent très peu. C'est-à-dire qu'une fois que vous les avez coupées, dans la journée ou le lendemain, ça va faner. On va pas faire des pommes de terre par exemple parce qu'on n'a pas suffisamment d'espace, donc on va plutôt travailler sur des légumes anciens qui demandent beaucoup d'entretien, du temps, mais qui en même temps derrière ils ont beaucoup plus de goût. On va pas mal travailler sur ça, et puis bien sûr comme tu dis les aromatiques, donc ça on les retrouve dans les mojitos du bar, dans les petites sauces du restaurant. En fait on va essayer de travailler sur des produits qu'on peut apporter en petite quantité pour suffisamment apporter, voilà, pour le restaurant, pour la cuisine.
Ouais, c'est Maxime de Rostolan qui justement dit, vous êtes bien mignon avec l'agriculture urbaine, mais ça va pas nourrir suffisamment de personnes, surtout dans des grandes villes comme Paris. Vous avez pris le parti de pas du tout axer, tu m'as parlé de la production, il me semble, bien après d'autres objectifs.
Oui, hein. Oui, tout à fait. L'idée aussi, c'est, comme je parlais, de la pédagogie. On a ici l'avantage, enfin les personnes ont l'avantage de pouvoir venir visiter la ferme deux fois par semaine, une visite guidée. Le mardi à 15h et le samedi à 16h. Et à côté de ça, pendant toute la semaine, la ferme urbaine, elle est ouverte de midi à 17h. Donc les gens peuvent venir voir. Et c'est un espace pédagogique. C'est-à-dire qu'on a différentes techniques de culture. Hein. On entend souvent parler des buts en lasagne, des structures en trous de clé. Voilà. Ici, on a mis ce type de structure en sachant que c'était peut-être pas forcément les meilleures techniques pour le type de sol qu'on avait, mais c'était juste faire une démonstration, de faire voir aux gens, voilà, il existe tel type de culture, quel type de technique que vous pouvez utiliser après. Alors il y a des techniques qu'on peut utiliser sur des balcons, dans des petits jardins partagés, ça dépend vraiment du contexte dans lequel on est. Et les gens peuvent comprendre tout le fonctionnement de la ferme urbaine grâce à une très bonne communication, donc il y a des panneaux qui expliquent toutes les petites techniques qu'on a.
Le lien pédagogique est évident. La sensibilisation à la nature, la connexion avec la terre, j'imagine que c'est aussi quelque chose qui ressort beaucoup de toutes les personnes qui rentrent dans la recyclerie, non?
Et on fait pas mal de participatifs justement pour avoir pas mal de connexions. Donc je parlais justement de lien social. C'est ce qu'on reprend un petit peu sur, on retrouve chez les jardins partagés. Les personnes viennent dans des jardins, c'est un lieu de rencontre. Ça veut dire qu'ils ne se seraient peut-être pas rencontrés. Ici, on a des personnes de différentes tranches d'âge, de différentes catégories sociales qui se rencontrent ici les vendredis après-midi ou même d'autres jours de la semaine pour nous donner des coups de main dans la ferme parce qu'on a besoin d'aide. Donc, il ne faut vraiment pas hésiter à venir apprendre avec nous. En fait, c'est plus un échange qu'un enseignement. Ça veut dire que nous, on connaît quelques trucs, on ne connaît pas tout. Et encore, mon collègue et moi, on est encore jeunes, donc on a encore beaucoup à apprendre. Et donc, on est là, voilà, on échange des astuces sur le jardinage. C'est un moyen de se rencontrer.
Quel type de coup de main, quel type d'atelier vous mettez en place par curiosité?
En tous les cas, c'est c'est pas vraiment planifié, c'est un petit peu on va voir ce qu'on a à faire ce jour-là. Donc il y a des parties un petit peu moins marrantes, c'est s'occuper du compost, ça plaît un peu moins bien. Mais ça peut être aussi faire des semis, commencer les plantations. Donc là, on apprend, bah, tiens, voilà, quelle technique de semis, dans tel type de matériaux, quand est-ce qu'on repique, quand est-ce qu'on enlève les gourmands des tomates, est-ce que ça vaut le coup de le faire à chaque fois.
Juste comme ça. Et il y a un intérêt dont on n'a pas parlé encore, c'est l'intérêt écologique, l'intérêt de dire que le plus il y aura de verdure en ville, et le plus ça diminuera, ça baissera la chaleur, mais aussi le côté biodiversité. J'imagine que les abeilles, tous les insectes, ils doivent raffoler de tout ce qui se passe dans la ferme, non ?
Tu fais bien de parler des abeilles, parce qu'effectivement, on a des abeilles, enfin des ruches sur le toit de la recyclerie.
Est-ce que j'aurais pas un peu préparé mon émission, moi, tiens ? Incroyable.
Et effectivement, on a un très bon miel. Alors, ça surprend pas mal les gens quand j'explique ça pendant la visite. Pourquoi on a un très bon miel en milieu urbain ? Parce qu'il y a très peu de traitements phytosanitaires, donc pesticides, insecticides, fongicides et tout le reste en ville. Donc, pas d'impact sur la population des abeilles. Et les abeilles sont des organismes magiques qui sont capables de filtrer un petit peu toutes les pollutions qu'on trouve dans l'atmosphère. Et la deuxième chose aussi, c'est qu'ils vont chercher du nectar tout au fond d'une fleur où il n'y a pas forcément toutes les pollutions qui vont arriver là. Et dernière chose, tu parlais de biodiversité. Le miel en ville est très bon aussi parce qu'il y a une grande diversité de fleurs. Même s'il y a une tendance quand même pas mal de fleurs de tilleul. Mais ici, sur la ferme, en fait, les abeilles ne vont pas à plus de 2 ou 3 km de circonférence. Donc on a une grande variété de plantes sur le toit, des plantes pas mal d'ailleurs mellifères, ce qu'on appelle des plantes mellifères qui attirent les insectes pollinisateurs. Et dans le potager, c'est pareil, on a beaucoup d'espaces de plantes différentes. Donc ça donne un cocktail en fait, si tu veux, de parfums dans le...
Qui fait que le miel, il me semble, est presque sur le point de gagner des concours ou a gagné des concours.
Voilà, alors ça c'est grâce à Volcan, du coup, l'apiculteur de Citybis qui travaille sur ses ruches, qui a déjà gagné 2 médailles. Une médaille d'or du miel de Paris en 2016 et en 2017, le concours API mondial, il a eu la médaille d'argent. Concours international d'apiculture.
Génial, génial. Plein de choses qui se passent. Très concrètement, est-ce que tu peux redonner 2-3 informations clés pour que les personnes qui s'intéressent à cette ferme urbaine puissent vous rendre visite ?
Donc, ils peuvent venir quand ils veulent. On a une journée banalisée le vendredi après-midi où ils peuvent venir nous rencontrer et nous donner des coups de main dans la ferme urbaine. Et 2 visites par semaine, s'ils ont envie de découvrir un petit peu le fonctionnement de la recyclerie de la ferme urbaine, le mardi à 15h et le samedi à 16h.
Ah, génial, c'est très clair. Merci beaucoup, Olivier, pour cette présentation passionnante. On se retrouve, comme d'habitude, en fin d'émission pour le débrief. On est toujours en direct de la recyclerie où toi, tu travailles pour la ferme urbaine. Vous entendez les clics, vous entendez les bangs, vous entendez les planches à découper qui sont en train de fumer. On est en plein dans le local, on est en plein dans l'agriculture de demain, puisque c'est vraiment cette expérimentation, ce côté pédagogique qui m'intéressait et qui nous donne du concret à nous mettre sous la dent. Merci beaucoup. On se retrouve tout à l'heure pour le débrief. Tout de suite, on se refait une petite pause musicale.
Cleansing my soul of addiction for now, 'cause I'm falling apart. Yep. Tension between us just like picket fences. You got issues that I won't mention for now, 'cause we're falling apart. Passionate from miles away, passive with the things you say, passing up on my always. I can't blame you, no. No. Passionate from miles away, passive with the things you say, passing up on my always. I can't blame you, no. From a distance,
I think we should rule out commitment for now, 'cause we're falling apart. Leaving, you're just doing that to get even. Don't pick up the pieces, just leave it for now. They keep falling apart. Passionate from miles away, passive with the things you say, passing up on my always. I can't blame you, no, no. Passionate from miles away, passive with the things you say, passing up on my always. I can't blame you, no.
Ça commence par moi.
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 Ça commence par nous.
Et vous êtes bien dans l'émission Ça commence par nous. Tout de suite, c'est le moment tant attendu, le moment zéro déchet. Je laisse le micro à Hélène, la fondatrice des Déni, le Zero Waste Positif. Salut Hélène.
Salut Julien.
De quoi vas-tu nous parler aujourd'hui?
Bah du coup d'agriculture de demain, je me suis dit ça pourrait être pas mal. Ça tombe bien, on est à la recyclerie toujours. Et puis du coup on s'interroge, qu'est-ce que peut être l'agriculture de demain? Parce que finalement, manger c'est quelque chose dont on a vraiment besoin. Donc souvent on oublie un peu cette phrase si importante et si belle, si poétique de René Char qui disait « L'essentiel est souvent remis en cause par l'insignifiant ». Et donc l'essentiel, l'essentiel c'est notre agriculture, hein, sachant qu'avant avant la Seconde Guerre mondiale, on consacrait à peu près suivant les familles, entre 25 et 45% de notre budget total d'un foyer pour l'alimentation. Et donc, a fortiori pour l'agriculture, hein, qui était encore beaucoup plus une agriculture paysanne, et depuis la Révolution verte, notamment, on est descendu à 14% seulement de notre budget global dédié à l'alimentation. Et donc, en bout de chaîne, ces agriculteurs, comment peuvent-ils vivre? Mal, on l'a déjà dit, hein, sur 350 euros pour... De salaire mensuel pour un agriculteur sur trois. Et quand ce n'est pas 350 euros, ça peut être des agriculteurs qui finalement n'ont plus rien de l'image d'Épinal qu'on peut avoir en tête, mais qui pilotent tout depuis des ordinateurs au fin fond de la Patagonie ou sur les grands domaines américains, les grandes plaines, mais même pas si loin de chez nous d'ailleurs, sur la plaine de la Beauce. Et c'est important de voir effectivement, comme on l'a dit tout à l'heure, la pénurie, vraiment l'appauvrissement des sols, et qui fait qu'on ne peut plus vraiment alimenter, en tout cas de manière raisonnée, une population qui est croissante comme celle qu'on a sur la planète, d'autant que se rajoute à cet appauvrissement des sols le problème du changement climatique. Effectivement, c'est un cercle vicieux, hein, tout est lié. Alors on peut essayer d'avoir des prospectives comme ça et de se dire finalement, comment va-t-on s'alimenter demain? Alors on a plusieurs choix. Premièrement, moi, je vous invite toujours, hein, chères auditrices et chers auditeurs, à avoir un esprit critique, à se dire, finalement, ça commence par nous. Du coup, si on veut avoir une bonne alimentation, il faut aussi faire des appels d'air, de bons produits pour pouvoir donner de l'argent là où ça crée vraiment de la valeur, donc dans des produits bio, locaux, zéro waste, et puis forcément végétaux, hein, puisqu'on ne pourra plus nourrir toute la population avec une alimentation carnée. Donc l'alimentation, l'agriculture de demain, elle est végétale.
D'abord. Pour rappel, un Français mange pas loin de 90 kg de viande par an.
C'est énormissime. Du coup, elle sera forcément végétale, voire peut-être avec des insectes. On peut imaginer, effectivement, il y a des modes qui se font là-dessus, de dire on va arriver avec des insectes dans notre alimentation occidentale, sachant que ça se fait tout à fait en Asie ou au Mexique. Je suis déjà allée, on prend des petits grillons à l'apéritif, ça a exactement le même goût que les chips. En revanche, attention, là encore une fois, il ne faut pas... vraiment foncer tête baissée en se disant ah bah c'est la protéine de demain, ça génère énormément de poussière pour avoir été visiter une usine, une production, un élevage de criquets aux Pays-Bas. Donc il y a aussi de la pollution, il y a aussi des LED pour garder tout ça. On parle de LED, ça me fait ma transition pour l'agriculture de demain, sera-t-elle verticale? Et oui, on parle beaucoup de ces fermes urbaines verticales qui prennent des bâtiments très haut de plafond. La toute première a été créée à Singapour en 2012 et qui se targue d'avoir une production de plus de 400 laitues à l'année avec uniquement des comptes-gouttes. En fait, imaginez-vous avec uniquement des murs entiers, avec une salade en dessous d'une autre salade, en dessous d'une autre salade, en dessous d'une autre salade. Alors au début, c'est uniquement une petite graine et il y a un compte-goutte tout en haut avec de l'eau de pluie qui arrive et quelques nutriments qui parfois sont rajoutés à ces gouttes d'eau et qui vont de racine en racine en racine. Alors ça a l'avantage d'être biologique, ça a l'avantage de consommer extrêmement peu de ressources et peu de surface au sol. Néanmoins, ça consomme beaucoup de LED. Et oui, or les LED ne sont pas forcément recyclables, ce n'est pas non plus super bénéfique.
C'est de l'électricité.
Or, si on vient à manquer d'électricité demain, voilà, on n'a pas fait avancer le schmilblick en
fini
utilisant...
Fini les salades dans du plastique, derrière des vitres en plastique, dans des maisons en plastique, où tout est en plastique.
Exactement.
Une salade qui n'aura jamais vu le jour.
C'est pour ça que tout ce qu'on va pouvoir lire en agriculture de demain, qui sera biotechnologique, qui sera faite par de l'intelligence artificielle, méfiez-vous, parce que tous ces scénarios ne prennent pas en compte le fait qu'on va devoir se battre pour cette énergie, que ça n'utilise pas le soleil directement, que ça doit passer par des terres rares, par des, voilà, tous des systèmes dont la pérennité n'est pas assurée. Donc finalement, l'agriculture de demain, eh ben, elle sera diverse. Oui, on aura certainement quelques agricultures urbaines sur des toits, mais on aura surtout une agriculture qui reviendra plus paysanne, avec ferme d'avenir, avec de la permaculture, ce système global, et de l'agroécologie, pour vraiment la manière d'exploiter les sols plus intelligemment. Et puis, elle sera plus végétale, plus zéro waste, et je l'espère, plus heureuse, avec un retour d'une diversité, de se dire on ne mangera jamais ce qu'on a mangé hier, tout simplement, parce que bah, les productions ne sont pas les mêmes, et elle sera surtout locale.
Merci Hélène, on continue, tu parlais de sol, et nous avons justement un expert en la matière, puisque nous avons Alexandre Guilluy, et pas Guilly, puisque j'ai décidé d'écorcher tous les noms de famille aujourd'hui dans cette émission. Je reviens d'ailleurs en m'excusant auprès d'Olivier, qui ne s'appelle pas Olivier Fontona, même si ça lui irait très bien, puisque c'est Fontonas. Voilà, ça c'est dit, excuse-moi Olivier. Alexandre, c'est à nous. Alexandre, toi tu travailles pour les alchimistes. Les alchimistes, mais de quoi êtes-vous alchimiste?
Les alchimistes, parce qu'on veut transformer un problème, les déchets alimentaires urbains, en une solution qui est le compost qui fait pousser des tomates et des fleurs. On a beaucoup regardé l'exemple de Paris, qui est une ville très urbaine, très dense, une des plus denses du monde, pas mal muséifiée, c'est-à-dire difficile de faire bouger les choses à Paris, avec très peu de toits plats. Et quand on regarde dans l'histoire de Paris, qui est étudiée notamment... dans les pays nord-américains, sur les agriculteurs urbains, on s'aperçoit qu'en 1850-1870, on avait à peu près 1400 hectares cultivés à Paris intramuros. Ça faisait vivre 9000 familles, et les 1 200 000 Parisiens étaient quasiment en autosuffisance alimentaire, grâce à ce qui était produit en ville intramuros.
Incroyable, incroyable.
Deux raisons principales. La première, c'est qu'il y avait beaucoup de gens qui y travaillaient. Donc, il y avait une intensité en personnes par mètre carré cultivé qui était énorme. Absolument rien à voir avec l'agriculture conventionnelle d'aujourd'hui. Et il y a une deuxième raison, qui est souvent évoqué dans les écrits qui étudient Paris 1850, c'est les 40 000 chiffonniers qui avaient le droit, qui demandaient le droit au préfet de police de Paris de ramasser les déchets parisiens. Ces chiffonniers-là ramassaient notamment les déchets alimentaires et organiques, parce qu'il n'y avait pas de plastique à l'époque, c'était beaucoup plus simple, dans les halles, aux halles, etc. Compostaient ces déchets alimentaires et le crottin de cheval, parce qu'il n'y avait pas de voiture, donc il y avait le crottin de cheval, et revendaient aux maraîchers urbains, Paris et périurbains, ce compost-là. Et c'est les deux raisons pour lesquelles on constate des niveaux de productivité au mètre carré d'une agriculture parfaitement biologique en 1850 à Paris, qui sont rarement égalés encore aujourd'hui. Donc nous, on veut retrouver un petit peu cette boucle. Aujourd'hui, si on fait un parallèle, en 2018, 80% des déchets du Grand Paris sont incinérés, brûlés. Dans ces déchets-là, on a des déchets alimentaires qui sont composés à 85 ou 90% d'eau. Donc on brûle l'équivalent de 4 milliards de litres d'eau par an sur le Grand Paris. Ça paraît pas très pertinent. Dans ces déchets alimentaires, on a aussi de l'azote, du phosphore, du potassium, des oligo-éléments, plein de choses qui permettent de faire pousser des plantes. Et donc nous, ce qu'on souhaite, c'est recréer cette boucle de la matière organique. On a parlé beaucoup du sol qui perdait cette matière organique, de le faire à l'échelle de la ville. Non pas parce que la ville est la solution pour l'autosuffisance alimentaire, ce serait idiot de le dire, mais en revanche, il y a 80% des gens qui habitent, 80% des Français qui habitent en ville, et que si on a envie de changer les choses, de changer la façon de percevoir la nature, il faut bien commencer là. Donc, nous, ce qu'on souhaite faire, c'est ce qu'on fait tous les jours, c'est collecter les déchets alimentaires chez les restaurateurs, dans les épiceries, dans la restauration collective scolaire, hospitalière, les collectivités locales, composter ces déchets alimentaires en ville, à moins de 2-3 km, et revendre ce compost en ville pour participer à la revégétalisation de la ville. Tu parlais tout à l'heure des phénomènes d'artificialisation des sols et donc des conséquences que ça peut avoir sur les inondations, etc. Les îlots de chaleur en été. L'année dernière, on a eu 4 jours à plus de 32 degrés à Paris, il n'y a plus personne qui dormait. Et donc, la végétalisation de la ville est une des solutions pour rendre la ville de nouveau vivable. Donc si on veut faire du circuit court sur ce sujet-là, on a grosso modo un peu 4 raisons, 4 envies. La première, elle est économique, c'est éviter de transporter des déchets qui n'ont pas de valeur. Ça paraît un peu évident. Écologique, évidemment, parce que le transport, on sait que transporter des matières lourdes, ça génère du CO2, des particules fines, de la pollution sonore, et que ça, personne n'en veut.
Et puis c'est pas rien, c'est un tiers de nos poubelles, les déchets organiques.
On parle de millions de tonnes, ouais. Donc c'est quelque chose d'énorme. Ce qui est un petit peu moins intuitif, c'est que sur les métiers proposés dans le secteur des déchets, on a des métiers qui, un, sont pas forcément faciles à faire parce qu'ils sont dans un milieu où ça pue, et puis deux, ils sont extrêmement taylorisés, segmentés, spécialisés, parce qu'on a rendu cette gestion des déchets très industrielle et qu'on a éloigné le gisement du déchet en ville du traitement des déchets à la campagne. Et nous, ce qu'on veut faire, c'est un maillage de petites unités qui vont gérer 1,5 tonne, 2 tonnes par jour, comparativement à des unités qui font 50 000 tonnes par an, et de le traiter en ville, inséré en ville.
Et du coup, ça devient un savoir-faire. On est presque sur des compétences de chimiste, puisque j'imagine que maîtriser son compost, c'est tout un art, non ?
C'est vrai que c'est pas simple, c'est une vraie recette de cuisine. Les produits, ceux qui en ont fait un peu, ceux qui font du compost au fond du jardin savent qu'il faut mettre des produits secs et carbonés, des produits humides et azotés. Effectivement, tout ça n'est pas simple. On s'aide d'une machine qui est une machine très low-tech, une machine qui reproduit ce qui se passe dans la nature, mais qui est un peu nécessaire compte tenu du fait qu'on est en ville, que la densité est très élevée et que personne n'a vraiment envie de revoir arriver des épidémies type la peste ou le choléra en laissant...
etc.
Voilà. Donc on sait aujourd'hui, et on est la seule structure agréée par le ministère de l'Agriculture, à pouvoir gérer les sous-produits animaux.
D'accord.
Les bouts de viande, le poisson, les œufs, etc. Et donc on va pouvoir gérer tous ces déchets alimentaires en local, fabriquer un compost normé, de bonne qualité, dont on sait les qualités et à être sous les seuils des histoires d'hydrocarbures, de métaux lourds, etc., pour se rassurer pleinement sur la qualité du compost, et le vendre et le distribuer principalement en ville.
Dernière petite question pour les personnes qui ont envie de participer à la recréation de cette richesse. Des restaurateurs, des professionnels peuvent vous contacter pour que vous alliez récupérer leurs déchets organiques, ou pour l'instant c'est pas encore possible?
C'est tout à fait possible. On a ouvert notre première installation à Port-Royal dans le 14e à Paris pour prouver qu'il était possible, y compris dans les quartiers riches, de gérer les déchets, ce qui ne se faisait plus depuis quasiment 100 ans. Aujourd'hui, on va ouvrir à peu près 1 km d'ici à Porte de la Chapelle. On va ouvrir dans le 19e à 3 km d'ici. On va ouvrir un plus gros site sur l'île Saint-Denis qui va pouvoir gérer un peu moins de 2 tonnes par jour. Et donc, restaurateurs, épiciers, tous ceux qui génèrent des déchets, vous pouvez nous appeler et on vous accueillera avec un grand sourire et beaucoup d'efficacité, on l'espère.
Et toutes les informations, on les retrouve sur alchimiste avec un s.co.
Voilà. Tout à fait.
Merci Alexandre pour ton intervention. On se retrouve bien évidemment en fin d'émission pour les briefs. Vous avez toutes les informations pour le compost de manière très professionnelle. On abordera sans doute un autre jour le compost à l'échelle individuelle, qui est aussi un sujet passionnant. En attendant, on va quand même nous aussi aérer un peu notre cerveau pour faire une petite pause, en faisant une petite pause musicale, et on revient tout de suite après avec le bon plan de Mélanie de One Art. À tout de suite.
Je voudrais du soleil vert, des dentelles et des théières, des photos de bord de mer dans mon jardin d'hiver. Je voudrais de la lumière comme en Nouvelle-Angleterre. Je veux changer d'atmosphère dans mon jardin d'hiver. Ta robe à fleurs sous la pluie de novembre, mes mains qui courent, je n'en peux plus de t'attendre. Les années passent, qu'il est loin l'âge tendre. Nul ne peut nous entendre. Je voudrais du Fred Astaire, revoir un latte cover. Je voudrais toujours te plaire dans mon jardin d'hiver. Je veux déjeuner par terre comme au long des golfes clairs, embrasser les yeux ouverts dans mon jardin d'hiver. Ta robe à fleurs sous la pluie de novembre, mes mains qui courent, je n'en peux plus de t'attendre. Les années passent, qu'il est loin l'âge tendre, nul ne peut nous entendre. Dans mon jardin d'hiver.
Ça commence par moi.
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 Ça commence par nous.
Toujours dans l'émission Ça commence par nous, je laisse le micro à Mélanie du Média Positif One Art. Salut Mélanie.
Salut Julien. Hello les amis, j'espère que vous allez tous bien et que vous profitez pleinement des beaux jours qui nous sont offerts. Moi aujourd'hui, pour cette émission dédiée à l'agriculture de demain, je vous ai déniché un bon plan, pour le moins atypique. Il s'agit de Peace for Love. Peace and Love, pardon. Je ne sais pas si vous connaissez déjà. Bon, déjà, on peut se dire qui a dit que c'était difficile de cultiver quand on était en ville. C'est faux, parce que Peace and Love, c'est votre potager. Il s'agit d'immenses fermes installées en région urbaine et dont vous êtes le propriétaire.
Mais attends, on parle de Peace and Love. Peace, c'est petit pois, hein. Peace, c'est la paix. Oh, là, un premier
nom.
Ils sont marrants déjà, ils sont marrants. Mais comment ils font concrètement pour cultiver leurs légumes en pleine ville, en plus d'être marrants?
Alors, ce sont des fermes qui sont installées sur des toits d'immeubles gérés par des professionnels ingénieurs et agronomes appelés community farmers, chargés de cultiver et entretenir le potager pour vous.
Et qu'est-ce qu'ils cultivent sur ces toits?
Alors, il y a plus d'une cinquantaine de références. Vous retrouvez des fruits, des légumes, des fleurs comestibles, des herbes aromatiques, des salades, le tout en bio. Et les premières cultures commencent au mois de mai avec le retour des beaux jours. Donc, vous pouvez par exemple aujourd'hui cultiver des fraises, des radis.
Plein de choses.
Que de bons produits.
Tu disais tout à l'heure, c'est notre potager. Pourquoi c'est notre potager? Comment ça marche?
Donc en fait, c'est une immense ferme sur plusieurs milliers de mètres carrés. Et il existe en fait plusieurs parcelles. Chaque parcelle fait 3 mètres carrés. Et vous pouvez disposer d'une ou plusieurs parcelles que vous louez. Donc chaque parcelle a 71 emplacements pour des fruits et des légumes. Et comme je le disais précédemment, vous louez la parcelle et c'est le community farmer qui se charge de tout. Et pour tout ce qui est la sélection de fruits et légumes, c'est la communauté qui sélectionne collectivement. Voilà, on décide, nous, de cultiver tel fruit, tel légume. Ils se mettent tous d'accord et c'est comme ça que le choix est fait. Et vous avez également la possibilité de venir voir votre parcelle en personne quand vous le souhaitez, de jardiner avec vos enfants si vous avez envie, de profiter des conseils avisés du professionnel. Vous pouvez même ne pas pouvoir venir, donc il n'y a aucun souci, c'est le professionnel qui s'en charge à votre place. Vous pouvez participer à des activités de groupe. Récemment, ils ont mis en place des activités de yoga pour se reconnecter à la nature. Vous pouvez partir en vacances sans crainte parce que vous n'aurez plus le doute de vous dire mais qui va s'occuper de mes plantations? Il y aura quelqu'un pour s'en occuper. Et même si voilà, il y a des récoltes qui sont faites, les fruits et les légumes seront distribués auprès de la communauté. Enfin, il n'y a pas de gâchis. Donc ça, c'est très bien. Et ensuite, ils vont également mettre en place une application pour permettre à la communauté d'être informée en fait, sur l'évolution de la parcelle. À quoi elle ressemble, quand est-ce que je peux venir récolter
Ce qui implique de s'inscrire, du coup, j'imagine.
Exactement. Donc, vous allez sur le site et vous choisissez le nombre de parcelles qui vous intéressent, que vous désirez louer, et le tour est joué. C'est aussi simple que ça.
Et combien ça coûte? Une fortune?
Non,
cette technologie qui a une personne 100% dédiée à ça, ça coûte une fortune?
Pas du tout. Vous pouvez louer une parcelle de potager pour 8,90€ la semaine, ce qui revient grosso modo à 38€ par mois pour un abonnement annuel. Vous aurez également accès en plus de votre parcelle aux espaces communs de la ferme où sont cultivés les légumes un peu plus volumineux comme les courges. Là, ça ne va pas sur votre parcelle individuelle parce que c'est consacré en fait aux petites cultures.
Et où est-ce qu'on peut en trouver de ces fermes Peace and Love?
Alors, la toute première ferme Peace and Love a vu le jour à Bruxelles en 2016 avant de se développer à Paris sur les toits de l'hôtel Yuma à deux pas du centre commercial Beaugrenelle dans le 15e arrondissement. Mais également sur les terrasses du siège de BNP Paribas, ici les Moulineaux, en région parisienne. Et nous, on a eu l'occasion d'y réaliser un tournage, donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur oneart.fr si ça vous intéresse. Vous aurez beaucoup plus d'infos et allez jeter un coup d'œil et voir comment ça se passe.
Ouais, c'est pas mal de voir comment ça se passe en vidéo. On partagera ça, nous, sur la page Facebook de Ça commence par nous.
Ça commence par moi.
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 Ça commence par nous.
Allez, dernière ligne droite de cette émission de Ça commence par nous. Aujourd'hui, on parle de l'agriculture de demain. Mélanie, tu me fais ma première question parfaitement. On est pile en ce moment entre cette tendance à vouloir tout passer par la technologie et on en vient à envoyer des voitures maintenant dans l'espace, et on parle en même temps de choses qui remontent à des milliers et des milliers d'années de tradition ancestrale. Quel est le juste milieu à placer? Où est-ce qu'on met le curseur? On va vraiment récolter nos salades dans des petits tuyaux en plastique qu'on contrôlera avec nos smartphones? C'est vraiment une bonne idée? Est-ce qu'on peut s'en inspirer? Marion, vas-y, je te sens monter au créneau. On parle bien près du micro. Allez.
Nous, chez Ferme d'Avion, on n'est pas technophobe, mais on n'est pas technophile aveugle non plus. Comme tu dis, il faut trouver le juste milieu. Je rappelle effectivement ce que disait Hélène aussi tout à l'heure sur le fait que les technologies... oui, ça peut être une solution, mais en même temps, ça demande aussi des terres rares, ça demande aussi de l'énergie pour être utilisée. Donc nous on n'a pas non plus défini l'agroécologie tout à l'heure, mais l'agroécologie, c'est une agriculture qui s'inspire de la nature et l'objectif, c'est de fournir plus d'énergie qu'on en consomme. Et donc moi, je dirais que la limite, c'est là, en fait, de savoir est-ce que cette technologie va nous aider à être plus efficient d'un point de vue énergétique plutôt que sans,
l'enjeu,
tout simplement.
L'enjeu mathématiquement, il est là. On a une agriculture qui consomme combien de calories de pétrole, si je dis ?
On estime qu'après la guerre, en fait, pour une énergie alimentaire, pour une calorie fossile, pardon, on produisait 2,4 calories alimentaires. Voilà, on était gagnant. Et aujourd'hui, c'est l'inverse. C'est-à-dire que pour produire avec une calorie, pour produire une calorie alimentaire, il faut 7 à 10 calories fossiles.
J'ai même lu qu'il en fallait 16 dans des pays comme les États-Unis. Ouais. C'est énorme. Olivier, je te vois dire oui, toi, qu'est-ce que tu en penses de tout ça ?
Je suis tout à fait d'accord pour ce qui est de l'agriculture high-tech. Effectivement, il faut voir aussi dans le contexte, on parlait tout à l'heure des fermes verticales, là où elles sont le plus développées, c'est Taïwan, Singapour, Japon.
Des endroits où il n'y a pas de place, en fait.
Il y a des endroits où pas de place ou des sols pollués. C'est vrai qu'ici, en France, on a encore des sols qui sont relativement bons, qui ne sont pas complètement perdus. Qui sont malheureusement trop vite artificialisés, donc peut-être d'abord essayer de préserver ces sols en périurbain, hein, c'est important, les périurbains aussi en Île-de-France, il y a énormément de la production qui va malheureusement à l'étranger, donc pourquoi pas faire un peu plus de maraîchage bio pour les villes.
On dit qu'il n'y a plus de pétrole pour labourer, pour récolter, mais il n'y aura bientôt plus de pétrole non plus pour les déplacer, pour les transporter, ces aliments. Donc comment on fait pour retourner sur l'échelle locale ? Toi, tu penses vraiment, Alexandre, qu'on va réussir à retrouver ces taux de productivité dont tu nous parlais dans les années 1850, c'est ça ?
Oui, alors on n'a pas l'œil rivé sur la productivité, c'est juste de tordre le cou à l'idée qu'on se fait souvent. Moi, il y a une expression que j'aime pas du tout, c'est on parle d'agriculture intensive quand on parle de l'agriculture conventionnelle. Elle est intensive en capitaux, oui, mais elle n'est pas du tout productive. Si on prend un hectare de blé, si on le compare à un hectare de ferme d'avenir ou un hectare de maraîchage lambda, honnêtement, c'est pas un hectare qui sont productifs. Donc la question de l'agriculture intensive, à mon avis, déjà, faut un peu lui tordre le cou. Ensuite, sur la question des distances, la distance, elle est pas... on parle beaucoup économique, écologique, etc. C'est aussi retrouver le sens des choses. On voit bien que le circuit court, il se développe dans plein de domaines, bancaires, financiers, etc. Et que ce qu'on souhaite aujourd'hui, enfin, en tout cas la succession des crises, si on reprend le domaine agroalimentaire, donne envie à chaque citoyen de maîtriser un peu son destin et de savoir ce qu'il mange. Les labels ne suffiront pas. Le label bio, le label locavore, etc. Ce qu'on souhaite, en tout cas de manière de plus en plus réelle, c'est recomprendre comment ça marche. Et si on met 2, 3, 4 intermédiaires entre celui qui fait et celui qui consomme, eh ben on comprend plus ce qui se passe.
Et justement, comment il fait le citoyen ? Parce que le citoyen, on ne va pas tous aller labourer nos champs, on ne va pas tous faire pousser des choses sur des parcelles, sur des toits. Est-ce qu'il y a des actions intermédiaires ? Tu parlais tout à l'heure des fleurs, des plantes mellifères. Olivier, est-ce qu'il y a d'autres actions qui peuvent nous permettre de retrouver ce sens et de nous reconnecter un peu à notre alimentation ? Les plantes mellifères, je pensais à ça. Je pense au compost qu'on peut faire chez soi. Je pense à, je sais pas, je voulais voir si vous, il y avait d'autres pratiques que vous mettiez en place dans votre quotidien.
Le fait de maîtriser, moi, je plus sois totalement ce que tu viens de dire, parce que je trouve ça très, très important de redonner le pouvoir aux personnes de comprendre. Il n'y a personne qui est débile. Et il faut arrêter aussi d'infantiliser toujours le citoyen en disant non, mais ça, laisse tomber, l'agriculture, on maîtrise. Il faut avoir un diplôme d'agroéconomie. Il faut avoir fait ceci, cela. Alors, je suis tout à fait pour, comme tu disais, on ne va pas tous redevenir paysans, même s'il faudrait revenir à des taux qui soient beaucoup plus corrects avec effectivement des personnes qui peuvent utiliser leur énergie, voilà, sans forcément avoir de l'utilisation d'énergie fossile pour cultiver. Et quand tu disais que l'agriculture intensive, effectivement, n'est pas si intensive, pas si optimisée que ça, moi, c'est ce que je vois toujours avec le zero waste. À chaque fois qu'on me dit, oui, mais le zero waste, disons que c'est revenir à l'époque de nos grands-parents, c'est
on
pas du tout...
On va s'écurer à la bougie, c'est l'âge de pierre ton truc...
Exactement, c'est pas confort, mais... Pas du tout. Au contraire, si vous vous faites des déchets, c'est que c'est un échec, hein. C'est que vous n'avez pas réussi à être optimisé. Alors la grande économie, les plus beaux buildings qui sont HQE, RSE et tutti quanti, finalement, s'ils arrivent avec d'immenses tonnes de déchets en extérieur qui finalement vont juste envoyer en Chine par paquebot brûler tout ça, les 4 milliards d'eau qu'on brûle en région parisienne tout le temps, c'est pas de l'optimisation. Quand on fait des salades où finalement on doit les expasser les unes des autres pour qu'il n'y ait pas de bactéries qui se passent d'une à l'autre ou qu'on puisse laisser les tracteurs passer pour arroser de pesticides les escargots alors qu'on pourrait avoir du basilic en dessous, des tomates encore en dessous, des petites
ça y
plantes
est, vous m'avez
et
énervé.
En haut du raisin.
Vous m'avez énervé. Et moi, voilà. Derrière, c'est une heure de boulot. Maintenant, Hélène, elle est comme ça.
Pas du tout.
Allez, on a 10 secondes pour terminer. Former. 10 secondes, quelqu'un veut rajouter une dernière chose ? Vas-y, Mélanie.
Je veux dire sur ce que disait Hélène, justement, pour ceux qui souhaiteraient, pardon, je reprends peut-être, on ne va pas me bien entendu, je rebondis sur ce que tu disais pour s'informer, je pense que c'est déjà agir, donc peut-être se rapprocher des acteurs, en fait, qui font bouger les lignes, il existe pas mal d'associations, là, on voit Ferme d'Avenir, il existe, j'en ai peut-être pas parlé, mais c'est des bons plans que vous pouvez retrouver, il y a l'association Veniverdi, sur Paris, qui propose des ateliers pour vous former, justement, à l'agriculture de demain, il y a la Sauge, à la Prairie du Canal à Bobigny, si vous allez y jeter un coup d'œil, vous voyez plein de choses, l'aquaponie,
il y a plein de trucs.
Il y a plein d'initiatives, en fait, même si vous ne savez pas de quoi il s'agit, il y a toujours un moyen de s'informer, de découvrir de nouvelles choses.
Et on va terminer là-dessus, mesdames et messieurs, c'est passionnant, mais je garderai vraiment ça. Peut-être que l'idée, c'est pas de refaire chacun chez soi, mais de faire ensemble, effectivement, et de trouver les initiatives qui mènent ces fabuleux projets à côté de chez soi, et d'aller filer un coup de main, au moins de commencer par s'y intéresser. Merci à tous pour vos interventions de qualité. Pour rappel, on a reçu Marion Enzer de Ferme d'Avenir, Olivier Fontenasse de la Ferme Urbaine de la Recyclerie, Alexandre Guilluy des Alchimistes. Merci à vous trois pour vos interventions de qualité. Et forcément, la fine équipe, hein, on avait Mélanie Douanard pour son bon plan, Hélène Dénigny pour son focus zéro déchet, Raphaël et Fabrice pour Rage.
Ça commence par nous.
Et oui, je suis méga à la bourre. Je remercie quand même l'équipe de la Recyclerie pour leur accueil plus que chaleureux. C'était notre deuxième émission en direct du tiers-lieu de la Recyclerie qui est situé dans le nord de Paris. Et c'était génial. Merci pour leur accueil. Bien entendu, si vous voulez réécouter ou partager cette émission, vous pouvez retrouver le podcast de Ça commence par nous sur le groupe Facebook, sur rage.fr, mais aussi sur iTunes. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission qui change le monde. Merci de nous avoir écoutés et je vous dis à samedi prochain, 13h. Salut!